Bonjour à tous, vous allez bien ce matin? Oui. Donc, mon nom est Dominique King, je suis un des pasteurs ici à l'Église Le Sentier. Je suis vraiment content d'être avec vous. Et ce matin, on continue notre série qu'on a commencée il y a de ça 2 semaines. La semaine passée, on a eu notre dimanche spécial de baptême avec 5 beaux baptêmes, 5 beaux témoignages. Je remercie encore le Seigneur pour le bon temps qu'on a eu ensemble en Église. Et ce matin, on continue cette série, c'est notre 2e message. Dans le Cantique des Cantiques. Et le thème de cette série est « Sa bannière, c'est l'amour ». Et aujourd'hui, on va continuer cette série en parlant de mariage et en parlant de sexualité. Et donc, Normand vous l'avait promis, donc j'étais obligé de préparer ça. Donc, mais pour de vrai, le Cantique des Cantiques, je ne sais pas si vous avez lu ce texte-là déjà, si vous connaissez ce livre dans la Bible. Mais en fait, c'est un livre qui célèbre l'amour passionné entre un homme et une femme. Et quand on appelle quelque chose le cantique des cantiques, ce que ça veut dire, c'est que cette chanson-là, c'est le top 1, le numéro 1 du palmarès des chansons à cette époque-là. Et c'était comme ça que la société de l'époque voyait ce recueil de poèmes, ces cantiques, ce chant d'amour d'un homme et d'une femme. Et c'est un livre qui était très, très prisé, qui est très reconnu et qui parle de mariage et de sexe. Alors oui, la Bible en parle et la Bible en parle de manière si belle et si positive. Souvent, on regarde le monde, la sexualité, on regarde le monde dans lequel on vit, peut-être qu'on envoie nos enfants à l'école, on se pose toutes sortes de questions. Et une chose que j'ai remarquée, en étant pasteur jeunesse, en travaillant avec des ados, c'est que nos jeunes, chacun d'entre nous, on va être bombardé d'informations sur la sexualité. Mais on a besoin d'avoir un regard juste, le regard de Dieu sur la sexualité, sur le mariage, parce que d'une manière ou d'une autre, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, on va s'en faire parler, n'est-ce pas? Et ce matin, on veut voir ensemble, avec l'aide du Cantique des Cantiques, que le mariage, c'est quelque chose de désirable. Le mariage, c'est beau. Le mariage, c'est passionné. Le mariage, c'est une relation que Dieu a instaurée pour notre bien. Êtes-vous d'accord avec ça ce matin? C'est bon. Mais êtes-vous d'accord aussi que le mariage, d'un fois, ça ne ressemble pas toujours à ces belles choses qu'on vient de dire? Parce que le mariage, c'est plein de défis, c'est plein de luttes. Et une des choses que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin, ou que ce que j'aimerais que vous receviez ce matin, c'est que tu saches que tu n'es pas toute seule à vivre ces luttes et ces défis-là dans ton mariage. C'est comme ça pour chacun d'entre nous. Et on peut même voir dans le Cantique des Cantiques, ce poème d'amour, la lutte qu'il y avait pour que le mariage soit un mariage heureux. Donc j'espère que ce matin, tu vas être encouragé et non pas découragé. Que ce matin, tu vas voir la beauté de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu veut faire, et que ce message puisse te remplir d'espoir, de joie et plein de sujets de conversation avec ton époux, ton épouse. Mais une chose que je vais vous demander ce matin, si vous prenez des notes, c'est que tu n'as pas le droit de prendre des notes pour ton conjoint. Tu prends des notes pour toi et pour ce que toi, tu peux retenir de ce message. Mais ce n'est certainement pas un message qu'il faut commencer à s'accuser. Après, ça défierait un petit peu le point qu'on essaie de voir ce matin. Prenons un temps dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour le temps que tu nous donnes ensemble ce matin de passer dans ta parole. Merci pour parce que tu ne nous laisses pas, Seigneur, tout seul à réfléchir sur les choses qu'on vit dans notre quotidien. Tu ne nous laisses pas tout seul, Seigneur, à nous parler, à répondre à nos questions, les questions qu'on se pose sur la vie de tous les jours. Ce matin, on veut parler du mariage. On veut parler, Seigneur, de cette relation que tu as instaurée, de cette relation que tu portes en haute estime. Et on te prie qu'on puisse être encouragé, que tu puisses vraiment l'utiliser pour ta plus grande gloire, Seigneur Jésus. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Donc, lisons ensemble. Ce matin, on va passer au travers de chapitre 3 et 4 du Cantique des Cantiques. Donc, on va commencer par les 5 premiers versets du chapitre 3. Et si vous avez jamais lu, si j'avais jamais lu ce livre, il y a plein d'affaires qui ne feront pas de sens quand on va juste les lire. Si vous l'avez déjà lu, vous comprenez ce que je veux dire, mais on va les expliquer puis on va regarder ensemble c'est quoi l'essence, c'est quoi que l'auteur cherchait à communiquer. Il faut se rappeler que c'est de la poésie et que la poésie de l'époque avec la poésie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de différences. Donc, lisons les cinq premiers versets du chapitre 3. « Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. » Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. » Donc ici, ce qu'on voit, c'est l'histoire de cette jeune fille qui cherche celui que son cœur aime. Elle cherche son bien-aimé et elle ne le trouve pas. Et si on lit tout le Cantique des Cantiques, on voit à plusieurs reprises cette dynamique de cherche et trouve, de distance et de rapprochement. On est loin, on est proche, on se cherche, on ne se trouve pas. Et on se trouve, on est ensemble, une scène, tout a l'air tellement beau, tout est tellement passionné, puis la scène d'après, on nous communique qu'ils ne sont plus ensemble, puis qu'ils se cherchent. C'est toujours ce désir d'être ensemble, cette réalité qu'ils ne sont pas toujours connectés. Et c'est ce thème d'intimité qu'on voit constamment se retrouver dans le Cantique des Cantiques. Ce désir d'intimité. Et ce qu'on voit ici, c'est cette jeune fille qui se bat pour l'intimité. Parce qu'on voit la scène où est-ce qu'elle se trouve dans un endroit sécuritaire, dans sa chambre, dans son lit, et elle s'en va dans la nuit pour chercher celui que son cœur aime. Et il faut comprendre que de sortir de la maison dans la nuit, ce n'est pas un endroit très sécuritaire à l'époque pour cette jeune femme. Dans la nuit, ce qui se passe, c'est les gens qui ont des relations sexuelles avec les prostituées, c'est des gens qui cherchent à profiter des autres, c'est des gens qui ne sont pas là pour faire du bien. Et elle s'en va là et elle va pour chercher son bien-aimé. Il faut comprendre ce texte comme étant un poème. Cette réalité-là qu'elle cherche à être connectée avec son bien-aimé. Et quand elle le trouve, elle l'amène dans cet endroit de sécurité, d'intimité, où est-ce qu'elle va passer la nuit avec lui. Et c'est ce désir d'intimité avec son conjoint. Et c'est certainement une bonne question à se poser quand on est marié. Est-ce que j'ai la même définition d'intimité que mon conjoint, ma conjointe? Est-ce que quand je dis « je veux être intime avec ma femme » ou « je veux être intime avec mon mari », est-ce qu'on est en train de parler de la même chose? Parce que si on reconnaît l'importance de se battre pour l'intimité, d'être connectés ensemble, c'est important de se demander aussi « est-ce qu'on a la même définition d'intimité? » Et ce matin, je vais dire des choses concernant les hommes et concernant les femmes, et je sais que je suis conscient que c'est des généralités qu'on pose parfois, et peut-être que tu ne te sentiras pas toutes là, ou dans un ou dans l'autre, puis c'est correct. Mais pour beaucoup d'hommes, l'intimité se vit quand on connecte physiquement ensemble. Pour beaucoup d'hommes, l'intimité se vit quand on connecte physiquement ensemble, quand on est connecté, et ultimement, quand il y a la relation sexuelle, où est-ce que les hommes puissent performer, avoir une bonne relation sexuelle avec leur femme, la plupart du temps, un homme va dire, hey, « là, je me sens proche de ma femme. » Les hommes, pour beaucoup d'hommes, l'intimité se vit dans la reconnaissance d'avoir fait quelque chose de bon, d'avoir été bon dans quelque chose, d'avoir réussi. Que ce soit dans sa relation avec sa femme, que ce soit au travail, que ce soit dans ses accomplissements, quand que sa femme a reconnu ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de bon, qu'il a réussi, l'homme va se sentir connecté avec sa femme. Parce que en général, ce que les hommes veulent, c'est être approuvés par leur réussite, leur accomplissement. Il y a quelques temps de ça, Et je ne suis pas fier de dire que ça l'arrive juste à quelques reprises. Je ne sais même pas si ma femme va s'en souvenir. Mais c'était un dimanche, en fait, puis on devait venir à l'église. Et puis, à la dernière minute, un de mes enfants était malade. Et puis là, on était on y va-tu, on y va-tu pas? Finalement, j'ai décidé de ne pas aller à l'église, de rester avec lui. Kim est parti à l'église avec les autres enfants. Et tout de suite, comme 5 minutes après qu'il était parti, cet enfant-là n'était plus malade. Oui, on s'est trompé. Puis là, j'ai dit, OK, ben t'es pas malade, là, t'as deux choix. J'ai dit, c'est soit que tu vas te coucher pour te reposer, ou que toi puis moi, on fait tout le ménage de la maison pour impressionner maman quand elle va arriver. Fait que je suis sensueux, il a décidé de m'aider. Fait que là, on a décidé de faire les toilettes, on a fait l'aspirateur, on a tout fait, là, j'ai même fait le lavage, ça, ma femme m'a demandé de ne plus le faire, par exemple, mais... On a fait la vaisselle, on a fait le ménage partout. Puis moi, tout ce que je voulais, là, je me souviens, là, puis Kim m'a envoyé une photo de ça dernièrement, du gars qui dit « Hey chérie, j'ai fait la vaisselle », tu sais, puis il était tout fier comme d'avoir fait la vaisselle. Puis, fait que j'étais comme « Ah, si ça circule sur les réseaux sociaux, je ne suis pas toute seule comme homme. » Là, j'étais comme « Hey, quand ma femme va arriver, là, elle va-tu être fière de moi? » Puis Kim était super contente, mais en même temps, pour elle, est comme « Je fais ça toutes les semaines. » Et là, on voit cette différence qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, où est-ce que ce désir, cette connexion-là se vit quand on est approuvé dans les choses qu'on fait, dans les choses qu'on aime. Et j'ai dit tantôt que souvent, ça se passe même quand il y a une relation sexuelle, quand on fait l'amour, et je ne disais pas ça en disant que seulement les hommes aiment faire l'amour, loin de là. Et on va parler de ça un petit peu plus loin tantôt. Mais on aime beaucoup être approuvé dans ce qu'on fait. Pour beaucoup de femmes, l'intimité se vit quand on connecte cœur à cœur, quand on parle de ce qu'on vit, quand on partage nos émotions. Ça ne veut pas dire que c'est juste les femmes qui ont besoin de parler de ce qu'elles vivent, mais certainement que les femmes se sentent connectées davantage dans ces moments-là, quand on est capable de dire comment on se sent. Pour une femme connectée, c'est souvent parler, être écoutée, être remarquée par son mari qui lui dit « je te trouve belle », quand elle se sent comprise, quand elle sent qu'on s'intéresse à elle, à ce qu'on vit. Puis c'est important de comprendre la définition de chacun, parce que c'est vraiment la cause de beaucoup de conflits puis d'insatisfaction dans le mariage. Puis à un moment donné, je ne me souviens plus de la discussion, mais je parlais de quelque chose avec ma femme, puis elle a dit « Ouais, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on ait de l'intimité. » Puis dans ma tête, j'étais en train de donner la définition d'intimité juste avant. Puis on réalise que, OK, on n'est pas à la même place. Et c'est important de s'écouter, de pouvoir comprendre qu'est-ce que l'intimité pour mon épouse, qu'est-ce que l'intimité pour mon époux. Parce que l'intimité, c'est le combat de la vie d'un couple. Dans ce cantique-là qui célèbre l'amour, on voit les bien-aimés qui se cherchent, qui se trouvent, qui luttent pour l'intimité constamment. C'est normal. C'est normal que ça ne va pas trop bien, ça ne va pas toujours bien. Puis que l'intimité n'est pas. On désire tellement l'intimité qu'on s'attend que l'intimité, notre définition d'intimité, va être remplie, puis qu'on va vivre l'intimité constamment. Puis des fois, on est désemparé quand on le perd. Mais c'est la lutte constante. Et puis, on a vécu ça. C'est vraiment intéressant quand tu étudies pour prêcher sur le mariage et sur la sexualité, ben tu vas comme parler de ça. Moi, cette semaine, dans les dernières semaines, j'ai eu la chance de pouvoir comme poser mes questions à ma femme, savoir comment elle se sentait dans telle situation. Puis ça là, comme pour nous, ça a été super bon. Ça nous en est plein de questions, de réflexions, de discussions. Puis ça nous a vraiment rapprochés pendant ce temps-là. On était comme super heureux, ça allait bien. Même qu'à un moment donné, on célébrait le fait que, hey, on s'est parlé des choses qu'on a plus de difficultés à se parler dernièrement, puis on célébrait ça ensemble, c'était super. Puis là, vendredi soir, après une longue journée, je reviens de la jeunesse, puis il est comme 10h30, j'arrive, puis là, je vois que ma femme, elle m'a attendu, elle est assise, puis là, moi, j'arrive dans la maison, elle était sur un sofa, je m'en vais sur l'autre sofa, je m'assieds, je dis « Salut, ça va bien », j'ouvre mon téléphone cellulaire, puis je commence à jouer à un jeu. J'étais comme dans ma tête, j'étais dans ma bulle, j'étais rendu là, moi je l'ai déconnecté, j'avais pas le goût d'être connecté justement, je l'ai déconnecté. Et puis là, ben Kim, on parlait, mais je pense comme on parlait pendant que je jouais à mon jeu, fait que ça compte pas pour parler ça. Mais là, un moment donné, Kim, elle se lève, elle s'en va. Je dis, tu t'en vas te coucher? Ouais, je m'en vais me coucher. Ben, je dis, OK, ben, je m'en viens dans pas long, bonne nuit. Puis finalement, elle tombe à dormir avant que je vienne. Puis le lendemain, je reviens de la à la maison. Je sors pour une commission, je reviens à la maison. Puis je fais la même chose. Puis là, un moment donné, elle dit, ça va? Oui. T'es sûr? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, on a eu une petite. Elle me dit, là, je suis tanné que tu es sur ton téléphone comme ça quand tu es à la maison. Puis, fait que là, je suis comme, ah oui, c'est vrai, je suis. Mais là, moi, je suis comme, OK, ouais, c'est vrai, j'étais sur mon téléphone, mais moi, je suis en train de me dire dans ma tête, mais voyons, comme, tu me dis que tu es tanné, que c'est souvent comme ça. Fait que dans ma tête, c'est comme ce que j'entends. Ce que j'entends, c'est que les deux dernières belles semaines qu'on vient de vivre, c'était pas vrai. C'est ce que moi, j'entends. Puis, c'est pas ça du tout quand ma femme me dit, elle parlait de cette situation-là. Puis là, fait que là, on discute. Non, on se parle pas pendant un temps. Et puis, c'est juste pour dire que cette intimité-là que tu penses que tu as, à un moment donné, va vivre une petite affaire banale, parce que dans le fond, c'est, nos vies sont la somme de plein d'événements banals qu'on va vivre qui vont créer quoi? Un conflit. Puis là, tu es comme, dans ta tête, tu dis, aïe, aïe, je pensais qu'on était connectés, je pensais qu'on était proches, puis là, on l'a perdu. Puis je vais revenir sur cette histoire-là plus tard. Mais c'est comme, on l'a perdu, puis on a perdu cette intimité-là. Pour toutes sortes de raisons. Il y a une seconde, on se sentait proche et connecté, puis à l'autre seconde, tu te dis, ah non, on l'a perdu. On l'avait, puis on ne l'a plus. Puis ça, c'est normal. C'est le combat de la vie des couples. Et ce qui est... ce combat-là, on le mène parce qu'on a choisi de passer notre vie, de partager nos vies avec l'autre. Et puis à la fin de ce passage, la jeune fille dit à d'autres jeunes filles, elle va dire au verset 5, « Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Ne réveillez pas l'amour. » Et oui, c'est certainement un encouragement pour les personnes célibataires qui n'ont pas trouvé l'amour encore, de se garder pour le jour où est-ce que tu vas rencontrer la personne avec qui tu vas passer ta vie. C'est certainement cet engagement-là, c'est certainement cet encouragement-là que le couple ici font à ces personnes-là qui sont célibataires. Mais autre qu'un un encouragement pour les célibataires, c'est un rappel que ne réveille pas l'amour avant le temps, parce que ce que tu as, puis ici elle fait certainement, on voit vraiment le contexte sexuel qui se passe ici, puis elle parle certainement de sa virginité. Puis ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle reconnaît que de s'unir avec cet homme-là, elle va lui donner, elle va se donner à lui, elle a ce choix-là de donner quelque chose qui lui est précieux depuis toujours, la seule chose qu'elle a pu conserver pour lui donner, puis dire, voici ça, je peux juste le donner à une personne, je te le donne à toi, puis je veux passer ma vie avec toi. Elle est en train de définir l'importance puis le sérieux de l'engagement qu'elle prend envers son futur mari. Et puis ce qu'elle fait, c'est qu'elle encourage. Elle encourage les célibataires à voir le précieux de se garder. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Et je sais que souvent, on veut peut-être, on aime quelqu'un, on veut pouvoir vivre cette relation-là avec cette personne. Peut-être qu'on veut attendre, mais c'est comme, il y a cette expression-là qui disait, on n'est pas fait en bois, hein, tu sais, puis c'est vrai. Tout ça est vrai, ce n'est pas facile. On n'est pas en train de dire, puis même que s'il y a quelque chose que le cantique nous communique, c'est la passion, puis c'est l'intensité de l'attirance l'un envers l'autre. Dieu reconnaît ça, Dieu a créé ça. Mais plutôt, c'est qu'elle est en train ici de dire, de donner une mission, de donner un défi positif à ses célibataires, de dire, vous avez quelque chose de beau entre les mains, gardez-le, puis faites certain que vous allez le donner à la personne avec qui vous allez vous battre tout le reste de votre vie pour rester dans l'intimité l'un avec l'autre. Et en tant qu'Église, on veut encourager nos jeunes gens, on veut encourager les célibataires, on veut les accompagner, on veut prier pour eux, on veut les questionner. Les questionner pour pouvoir créer des contextes de redevabilité. Mais certainement, ce matin, je suis en train de dire aussi que Dieu, c'est un Dieu de grâce, un Dieu qui est rempli de grâce. Et si tu n'as plus ça à offrir, c'est quand même cet appel de vivre et de te garder, maintenant, de te garder pour la personne que Dieu va te donner. De garder ce contexte, la sexualité, de la garder dans le contexte que Dieu a créé, qui est le mariage. Et ce que le cantique nous communique, c'est que dans son bon contexte, la sexualité, c'est quelque chose de merveilleux. La sexualité, c'est quelque chose de bon. Puis oui, la sexualité a créé beaucoup de blessures puis de brisures. Norman en a parlé il y a 2 semaines. Vous pouvez aller écouter ce message. On peut voir la sexualité comme quelque chose de difficile ou de pas beau, des fois à cause de tout ce qu'on a vécu. Mais la réalité, c'est que Dieu dit la sexualité comme il l'a créée dans un monde idéal, dans un monde, pourquoi qu'il l'a créée, à quoi elle servait dans cette relation, dans le contexte du mariage, la sexualité, c'est quelque chose de bon. Ultimement, c'est quelque chose de très bon. Et il encourage les célibataires à désirer cela. Pas de le voir comme quelque chose que je n'ai pas le droit de faire, mais comme quelque chose que je désire porter jusqu'au jour que je vais pouvoir le donner à la personne avec qui je vais passer toute ma vie. Mais c'est aussi un rappel de l'engagement qu'on a pris les uns pour les autres. Comme j'ai dit plus tôt, la femme reconnaissait l'importance, l'homme et la femme reconnaissaient l'importance de l'engagement l'un envers l'autre. En rappelant de ne pas réveiller l'amour avant son temps, elle rappelle qu'elle est rendue là parce qu'elle est avec celui que son cœur aime, celui qu'elle a choisi. Et c'est comme cet engagement-là avec son mari, cet engagement dans cette alliance avec lui, elle veut se donner à lui. Puis le mariage, c'est cet engagement, une entente entre deux personnes qui choisissent de s'aimer pour le meilleur et pour le pire. Quand elle dit « ne réveillez pas l'amour avant son temps », parce que la personne avec qui tu te donnes, la personne envers qui tu t'engages, c'est cette personne-là avec qui tu vas vouloir te battre pour le restant de tes jours, pour l'intimité, dans cette alliance de grâce. Il y a toutes sortes d'ententes dans notre vie, toutes sortes de contrats, toutes sortes d'ententes qu'on va avoir. Et souvent, c'est des ententes, mais si je te donne ça, tu me donnes ça. Par exemple, le plus banal que chacun d'entre nous, ou la plupart d'entre nous, on a, c'est un contrat de téléphone cellulaire. Si tu me donnes 50$ par mois, je vais te donner tant de minutes, puis les soirées, week-end. Non, ça, c'est plus comme ça. Hein? Non. Mais je vais te donner tant de minutes, je vais te donner tant de gigs d'Internet. Tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, mais si tu arrêtes de payer, on va arrêter de te donner le service. Et un contrat qu'on peut signer aussi dans notre vie, ou une entente qu'on va signer, c'est quand on vend ou on achète une maison. Et moi, je me souviens, quand on a vendu notre maison, j'ai choisi, pour sauver un peu d'argent, j'ai dit, je vais aller avec du proprio. Et puis là, je vais vendre avec eux, mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de papiers, plein de choses là-dedans, je ne veux pas faire d'erreur. Fait que j'appelais les gens du proprio comme 3 fois par jour. Quand j'ai eu une offre d'achat, là, j'étais comme, OK, ça c'est correct, j'ai-tu mis ça, j'ai-tu fait la bonne affaire, je peux-tu parler au notaire parce que là, j'ai une question, puis est-ce que tu peux me dire ça? Puis pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de grâce là-dedans. Si tu te trompes puis que tu te fais avoir, là, la personne ne va pas nécessairement dire, on recommence, c'est pas grave. Je me disais, non, j'espère que tout va bien aller, j'espère que je vais être capable de bien vendre ma maison, que je ne ferai pas d'erreur puis que tout va être correct. Mais quand on parle du mariage, on parle certainement d'une entente entre deux personnes imparfaites. Oui, il y a des attentes dans le mariage l'un envers l'autre. Mais une alliance de grâce, c'est que on choisit de s'engager dans une alliance dans laquelle je suis appelé à me donner à 100% pour l'autre. Dans laquelle je suis appelé à aimer mon prochain à 100%. Je veux le meilleur pour l'autre. Je veux faire du bien à l'autre. Je veux que l'autre puisse s'épanouir, grandir, se sentir aimé. Matt Chandler, dans le livre The Mingling of Soul, qui est un livre qui parle sur le Cantique des Cantiques, un livre sur le mariage, il va dire ceci, « L'alliance du mariage est une alliance de grâce dans laquelle nous sommes appelés à se donner l'un à l'autre, pas 50-50, mais 100% chacun. » Comme dans l'alliance de grâce initiée par Dieu pour sauver des pécheurs, un parti peut donner 100% même quand l'autre ne donne rien. L'alliance de grâce que nous avons connue dans le mariage, tu es appelé à te donner à ton conjoint indépendamment de ce que tu reçois. Quand on lit le Cantique des Cantiques, il y a 3 mots qui me viennent en tête. On voit que les 3 mots sont les suivants, l'intimité, la sécurité et la valeur. Et on voit un gars et une fille qui sont constamment en train de rechercher l'intimité dans un contexte sécuritaire, constamment en train de valoriser l'autre. On voit à maintes reprises l'homme qui dit à quel point que sa femme est belle, à quel point il la désire, à quel point il veut être avec elle. On voit maintes fois la fille qui va dire comment que son mari est fort, comment son mari, elle est fière de ce qu'il fait, comment est-ce qu'elle veut être avec lui, comment elle l'aime. C'est constamment une recherche d'intimité dans un contexte sécuritaire et valorisant. Donc, mon engagement ne dépend pas de l'autre. Ultimement, mon engagement dépend de ma décision quotidienne à respecter mon engagement. Puis heureusement, la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est qu'on n'est pas seul à vouloir que cet engagement-là puisse réussir. Parce que les versets 6 à 11 les versets 6 à 11 du Cantique des Cantiques nous montrent comment Dieu voit le mariage puis comment est-ce que Dieu nous guide dans le mariage. On va lire ensemble les versets 6 à 11. « Qui donc monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon et autour d'elle 60 hommes vaillants parmi les plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, tous sont formés au combat. Chacun porte l'épée à sa hanche en vue des alertes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière en bois du Liban. Il a fait ses colonnes en argent, son dossier en or et son siège en pourpre. L'intérieur est tout brodé. Travail fait avec amour par les filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec sa couronne, dont sa mère l'a couronnée le jour de son mariage, le jour où son cœur est rempli de joie. » Et ici, on est en train d'assister à une scène d'un mariage royal, avec toutes sortes de référents à la royauté, les décors en or, les 60 guerriers qui sont là pour protéger la mariée, et on voit la couronne de Salomon. Et ici, on n'est pas en train de décrire le mariage de Salomon, mais certainement, on est en train de voir la beauté puis l'importance du mariage. Et encore une fois, on voit la femme qui est loin de son mari, qui s'en vient vers son mari comme des puis on voit qu'il vient du désert, accompagné avec des colonnes de fumée. Et si on pense à la notion de colonne de fumée, dans l'Ancien Testament, on voit Dieu dans le désert qui est en train de guider son peuple. Et certainement, on voit cette notion aussi de Dieu qui est en train d'honorer le mariage, qui est en train de dire, on n'est pas en train de lire un poème sur le mariage de Salomon nécessairement, mais un mariage, c'est toujours royal. Un mariage, c'est toujours grandiose. Un mariage, c'est toujours grand parce que le mariage célèbre cette union entre un homme et une femme. Le mariage célèbre la relation d'amour entre un homme et une femme. Et dans ce sens, chacun de nos mariages sont aux yeux de Dieu des mariages royaux. Important. Ici, on souligne l'importance du mariage. Pas nécessairement la journée du mariage, mais de notre vie de mariage. Ici, on souligne que Dieu dirige, Dieu qui donne de l'importance au mariage, Dieu accompagne les mariés, Dieu dirige les mariés. C'est la mariée qui vient guidée par la vapeur. Alors, quand on dit « mon engagement ne dépend pas de l'autre, il dépend de ma décision quotidienne à le respecter », il faut comprendre qu'on n'est pas seul. Parce que si Dieu nous rappelle l'importance de l'engagement du mariage, il nous rappelle qu'il veut certainement nous accompagner à le respecter. Ça ne serait pas bien de lire le Cantique des Cantiques puis de se dire « bon, regarde à quoi ressemble un mariage idéal, regarde à quoi ressemble l'homme idéal, regarde à quoi ressemble la femme idéale, regarde à quoi ressemblent les relations amoureuses, les relations sexuelles idéales, maintenant faisons-le. » On ne pourrait pas regarder ça. Parce que ça serait mal connaître notre cœur puis l'intention de notre cœur puis de mal connaître que finalement, à cause du péché, on n'est pas capable de vivre ça à tous les jours de façon parfaite. Il n'y a personne qui peut faire ça. Donc, ce n'est pas bien de lire la Bible puis de regarder l'idéal puis de se dire « ah ben go, il faut que je le fasse » sans reconnaître premièrement que j'ai besoin de la grâce de Dieu puis que je ne peux pas vivre l'idéal à cause du péché qui est en moi. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est « merci Seigneur pour la beauté du mariage, merci Seigneur pour la beauté de cette union et Seigneur, aide-nous à rechercher cet idéal par ta grâce. Aide-moi à aimer ma femme, aide-moi à aimer mon mari comme tu veux que je l'aime. Aide-moi à m'engager à 100% dans cette relation-là, même quand je ne reçois pas ce que j'aimerais recevoir. Parce que quand je suis, je ne sais pas pour vous, mais quand moi, personnellement, je suis appelé à aimer l'autre, peu importe ce que je reçois en retour, ce n'est pas là que c'est le plus facile, ce n'est pas là que je réussis toujours. Quand on est appelé à poursuivre l'autre de façon désintéressée par amour pour l'autre, peu importe ce qu'on reçoit en retour, ce n'est pas toujours facile. On peut se dire ce matin, ouais, mais je lui demande toujours de faire des affaires, puis il ne fait rien, puis je trouve ça difficile, puis ouais, mais elle ne me dit jamais que. Il ne dit jamais que j'aime ce que je fais, ou elle ne me dit jamais que je suis beau, il ne remarque pas les choses que je fais. On peut dire, je ne me sens pas écouté, je ne me sens pas valorisé. Pourquoi je ferais ça? J'ai de la misère à le faire. Et on vit toutes ces choses-là. On vit tous ces choses-là. On lutte avec ça. C'est normal, c'est la réalité normale du mariage. Mais l'alliance de grâce que j'ai faite avec ma femme me pousse à l'aimer même quand je ne me sens pas aimé ou vice-versa. Même dans ces moments-là. Ce n'est pas évident, mais l'amour de Dieu nous appelle, que Dieu nous appelle à voir l'un envers l'autre, est en fait une image puissante de l'amour que Dieu a eu envers nous. On peut toujours se rappeler de l'amour que Dieu a eu envers moi. Dieu nous poursuit avec passion. Dieu est mort sur la croix pour avoir une relation avec moi. Dieu a donné sa vie par amour pour moi. Il s'est donné à 100% alors que j'étais 0% engagé dans une relation avec lui. Dieu est mort pour moi. Puis on peut dire, ben ça c'est Dieu, moi je ne suis pas Dieu, je ne peux pas faire ça. Mais la bonne nouvelle pour nous se trouve dans le fait que ce que Dieu fait en nous, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu fait en nous, il veut le faire à travers nous. Dieu aime tellement ton mariage, il honore tellement cette relation qu'il t'appelle à t'engager à 100% dans cette relation-là. Puis il promet qu'il va te donner l'amour, la force, la patience que tu as besoin par le Saint-Esprit qui habite en toi. Ce que Dieu fait en toi, il veut le faire à travers toi. Jésus n'est pas juste un bon exemple, c'est la force qui habite en toi qui te rend capable d'aimer comme il t'a aimé. Quand je vous parlais de cette histoire avec ma femme, où est-ce que tout d'un coup on a perdu l'intimité d'un... À ce moment-là, là, on était comme un petit peu fâchés l'un envers l'autre. On venait de se chicaner. On ne s'est pas parlé pendant un petit bout au courant de la journée. Puis à ce moment-là, ce qui se passait dans ma tête, disons que la liste des reproches était plus grande que la liste des confessions. Je ne sais pas pour vous, mais quand tu te chicanes avec ton conjoint ou ta conjointe, j'imagine que habituellement, là, pour un laps de temps au moins, c'est normal que la liste des reproches est plus grande que la liste des confessions. Puis, là, je me disais, dans le fond, là, je devrais peut-être aller dire à ma femme comment je me sens en ce moment. Ça, c'est pas une bonne idée non plus. Pas tout de suite. Et puis, je me souviens souvent de cette illustration qu'on m'a donnée au début de mon mariage. Un de mes bons amis m'avait dit, il dit, quand tu te chicanes avec Kim, tu as une brique dans tes mains. Tu as toujours une brique dans tes mains. Là, tout ce que je vais dire, c'est au sens figuré, OK? Tu as une brique dans tes mains. Puis cette brique-là, tu as le choix de faire une de deux choses avec. Soit que tu la prends puis tu y lances dessus, puis vous vous lancez des briques puis vous vous détruisez, ou soit que vous prenez ces briques-là pour bâtir votre mariage puis votre intimité, puis que vous en profitez pour régler, pour pouvoir parler, pour pouvoir écouter. Fait qu'une des choses que Kim et moi, on a faites avec le temps, c'est qu'on sait que, Kim sait que moi, quand on chicane, j'aime ça régler super vite. Mais moi, je sais que quand on chicane, elle ne veut pas me parler pour super longtemps. Puis les deux sont pas bons en passant, parce que moi, je fais ça parce que je me sens mal, mais dans le fond, c'est pas par amour pour elle que je veux faire ça, c'est parce que moi, j'aime pas l'état dans lequel je me trouve dans ces moments-là. Mais une chose qu'on a faite, c'est que on a appris que quand on chicane, du moment où on commence à penser au bien de l'autre, on dirait que la situation commence à tourner de bord, n'est-ce pas? Et puis on se dit, OK, comme je vais attendre avant d'aller la voir. Moi, c'est ce que je me dis. Puis Kim, elle s'est dit, puis c'est vrai, on a expérimenté ça à plusieurs reprises, parce que Kim, elle s'est dit, moi, je vais aller le voir le plus vite que je suis capable de le faire. Puis c'est drôle, on s'est rencontrés en quelque part de quand même pas pire. Puis aujourd'hui, c'est rare qu'on passe une journée sans adresser une chicane par la grâce de Dieu. Mais ce que je veux dire ici, c'est que à ce moment-là, moi, j'avais des reproches à faire à Kim. Kim, elle avait certainement des reproches à me faire. Et il y a eu ce moment de cette grâce dans mon cœur, ce moment de cette question qui est venue. Puis je me suis posé, qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Puis si je reconnais qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que je suis prête à aller demander pardon à Kim sans m'attendre à rien de plus qu'elle me demande pardon, qu'elle admet ses torts? Tu sais, que, dans le fond, la liste de reproches, là, je la mets aux poubelles. Puis là, ce que je veux, c'est reconnaître qu'est-ce que moi j'ai fait de mal. Parce qu'en réalité, dans le mariage, on ne contrôle pas ce que l'autre fait, puis ce que l'autre pense, puis comment est-ce que l'autre va réagir. Puis souvent, c'est ce que moi, je veux faire. Je veux contrôler la réaction de l'autre. Je veux contrôler comment ça va se passer. J'aime pas la chicane. J'essaie de régler une chicane. Mais par amour pour l'autre, est-ce que je peux reconnaître qu'est-ce que moi, j'ai fait de mal? Et c'est ça, c'est la grâce de Dieu qui nous rend capable de pardonner et d'aimer comme on a été aimé. Et c'est souvent de se rappeler, justement, oui, la grâce, c'est certainement de donner à l'autre de donner ce que l'autre ne mérite pas, mais c'est beaucoup plus de se rappeler que Dieu m'a donné ce que moi, je ne méritais pas. Et quand je me mets dans cette posture d'humilité où que, au moins dans l'histoire entre moi et Dieu, j'étais le coupable, puis que Dieu, gratuitement, il s'est donné pour moi, bien, dans l'histoire avec ma femme, je veux avoir cette posture-là de qu'est-ce que j'ai fait de mal, comment est-ce que je peux demander pardon et confesser à mon épouse. Et c'est ce que je vous encourage à faire, et de voir que par la grâce de Dieu, Dieu nous rend capable d'aimer dans les moments où on manque le plus d'amour. Cette intimité, cet amour passionné, quand on voit ce désir d'intimité, quand on voit ce désir de poursuivre le mariage avec intimité, de poursuivre l'autre, d'aimer l'autre, on le voit ici dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 4. Et c'est intéressant parce que c'est comme il y a eu cette scène de mariage, et puis là, on va arriver au chapitre 4, puis les deux vont se retrouver ensemble dans l'intimité tout seuls, et ils vont vivre une relation amoureuse, une relation, ils vont faire l'amour. Ils vont faire l'amour l'un avec l'autre. Et c'est vraiment intéressant parce que cette relation intime-là est décrite dans cette relation-là. Comment est-ce que les deux vont se parler? Comment est-ce que les deux vont se traiter? Qu'est-ce qui va se dire? Qu'est-ce qui va se faire? Et en entrant dans l'intimité du couple, on va regarder ensemble quelques principes dans ce passage traitant de la sexualité. Puis la sexualité n'est pas déconnectée de tout ce qu'on vient d'entendre ce matin. La sexualité, ce n'est pas juste un acte isolé qu'on fait qui n'a pas rapport avec l'intimité, qui n'a pas rapport avec comment je traite l'autre, comment j'aime l'autre, comment est-ce que je porte la grâce envers l'autre et comment est-ce qu'on on combat l'intimité. Parce que certainement que la sexualité contribue fortement à l'intimité dans le mariage. Et on va lire ensemble les versets 1 à 7, chapitre 4. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres. Là, c'est ici qu'il faut comprendre. J'arrête tout de suite. Qu'il faut comprendre que ce qu'il dit, c'est beau. OK? Puis elle était vraiment contente de l'entendre. On va continuer. Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondu qui remonte du lavoir, chacune a sa jumelle. Ici, il est très content que sa femme a toutes ses dents. Aucune d'elles n'est seule. Tes lèvres sont comme une lisière cramoisie et ta bouche est charmante. Derrière ton voile, ta joue est comme une moitié de grenade. Ton cou est pareil à la tour de David, construite pour y être une arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Probablement qu'il aime le collier qu'elle porte en ce moment. Tes deux seins sont comme des fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui broute au milieu des lys. Avant que la brise du jour ne souffle, que l'ombre ne fuit, j'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, il n'y a aucun défaut en toi. » C'est vraiment intéressant parce qu'ici, le mari est en train de décrire, il se trouve dans ce moment d'intimité et le mari est en train de dire à sa femme comment il la trouve belle, comment il la désire. Et ultimement, au verset 6, quand il dit « Avant que la brise du jour ne souffle et que l'ombre ne fuit, j'irai à la montagne de la mer, à la colline de l'encens », il est en train de lui dire « J'ai le goût de te faire l'amour. J'ai le goût d'être avec toi et d'avoir cette relation-là avec toi. » Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il décrit la beauté, comment il s'y prend pour dire à sa femme qu'elle est belle. Et tout d'abord, le premier principe qu'on peut voir, c'est que le sexe, la sexualité dans le mariage est romantique et tendre. On voit comment il décrit sa beauté, puis il prend son temps. C'est intéressant de voir la séquence qu'il commence en haut, puis il s'en va vers le bas. Puis au début, c'est comme, je te trouve belle, tu as des beaux yeux, tu as un beau visage, j'aime ton cou. Et puis là, après ça, il va dire comment qu'elle a, il aime ses seins. Mais tranquillement, il va descendre. Puis c'est clair qu'il prend le temps de lui dire qu'il la désire. Mais une chose qui est sûre et qu'il ne prend pas pour acquis, c'est qu'il n'est pas en train d'agir comme un gars qui est sûr qu'il va tout de suite avoir ce qu'il veut. Ou qui veut juste avoir du sexe et qui se dépêche ou qui fait ce qu'il a à faire. On voit que c'est un gars qui est là en train de prendre son temps. Il n'est pas certain que sa femme a veut encore. Puis peut-être même, on ne le sait pas, mais peut-être qu'il se pose des questions comme qu'est-ce qu'il va faire s'il a dit non? Peut-être qu'elle est fatiguée, elle a eu une longue journée, le mariage était stressant. Peut-être qu'elle est préoccupée. Puis il ne faut pas voir ce texte-là, ce passage-là non plus comme un guide de comment faire des préliminaires quand on fait l'amour. Mais certainement, l'attitude de cet homme envers sa femme puis l'attitude de cette femme envers son mari nous démontre sa tendresse, son romantisme, il prend son temps et encore une fois, le thème de la sécurité qui nous revient en tête. Il est en train de créer un contexte sécuritaire avec son épouse. Il est en train de lui dire, c'est pas juste l'acte sexuel que je veux, c'est le faire avec toi. C'est parce que je t'aime, toi, et je veux qu'on soit ensemble. Il prend son temps. Et, on voit que le sexe est réciproque. Ici, on voit au verset 6, lui, il est en train de dire qu'est-ce qu'il veut. Et on va voir, il va continuer... On n'aura pas le temps de lire les versets 10 à 15, mais ici, il parle d'un jardin. Puis dans ce jardin, il y a tous les aromates, toutes les épices, c'est comme le jardin idéal. Tu pourrais t'arrêter pour un instant et dire, là, je suis en train de lire une revue sur le jardinage, puis on te présente le jardin de l'année. Puis ça, c'est le meilleur jardin, c'est comme toutes les meilleures arbres, toutes les meilleures épices, tout est là-dedans. Puis il est en train de dire à sa femme comment il a envie de goûter à ses fruits. Puis comment est-ce qu'il a envie d'être avec elle, puis qu'il veut être avec elle. Puis c'est vraiment beau parce qu'il communique à sa femme ce qu'il veut. Il communique à sa femme, il y a cette ouverture à parler de sexualité avec elle. Et comme on a vu il y a deux semaines, le péché a certainement détruit notre perception de la sexualité, mais quand on voit que la sexualité, c'est quelque chose de beau, créé par Dieu, on peut avoir cette ouverture-là ensemble de parler de ce qu'on aime, de parler de comment on aime l'autre, dans le respect, dans la sécurité, et de pouvoir dire qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Puis c'est ce qui est en train de se passer ici. Le sexe est réciproque, et à la fin, si on sort tout de suite au verset 16, elle va dire, « Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin et que ses aromates se diffusent, que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. » Elle est en train de dire à mon bien-aimé, « Oui, je veux faire l'amour avec toi. » De façon beaucoup plus poétique et belle beauté, mais pour voir à quel point que les deux, ont leur mot à dire, que les deux sont libres de dire qu'est-ce qu'ils veulent, les deux se sentent en sécurité. Et même dans la notion du jardin, on voyait qu'il disait que tu es un jardin fermé, il est en train de dire, c'est pas tout le monde qui a le droit d'aller là. Puis elle est en train de dire, « Toi, mon bien-aimé, tu es celui qui a accès et avec qui je veux vivre cette intimité-là. » Et en terminant, la sexualité, le mariage, c'est à propos de l'Évangile. Puis comme on a dit au début, le message du Cantique des Cantiques nous présente une relation amoureuse, passionnée, idéale, démontrée par des relations sexuelles satisfaisantes, passionnées puis romantiques. Puis peut-être que toi, tu entends ça ce matin puis tu te dis, moi, il est trop tard pour moi. Nous, ça ne pourra plus jamais nous arriver dans notre mariage. Je me suis résigné à vivre cette intimité-là dans le mariage. Puis on est conscient que la vie est remplie de brisures, d'événements, de déceptions qui nous emmènent à croire qu'on est défini par ces événements. Que tu penses que ton mariage va plus s'améliorer. Mais j'aimerais te partager cette bonne nouvelle ce matin en terminant. C'est qu'on n'est pas défini par ce qu'on fait, on est défini, quand on est enfant de Dieu, on est défini par ce que Jésus a fait en nous. Oui, on est brisé, on est pécheur, on a fait des erreurs, puis peut-être que ce matin, tu as besoin de demander pardon à ton époux, à ton épouse, après la rencontre de ce matin. On est brisé, mais être chrétien, ce n'est pas ce que je peux faire, c'est pas premièrement ce que je peux faire, c'est pas comment je le fais, est-ce que je suis assez bon pour le faire, est-ce que je suis une bonne personne, parce qu'on reconnaît tous que d'être chrétien, c'est tout d'abord ce que Jésus a fait. Je suis un pécheur. Ma femme et moi, on s'accroche, on se chicane, on manque d'amour l'un envers l'autre. Puis je peux vous donner quelques bonnes raisons pourquoi on se chicane. À cause que je suis orgueilleux, à cause que je suis égoïste, puis à cause que souvent j'ai des excès de colère. On est brisé, on est pécheur. Mais Christ est mort pour moi. Il a fait de moi son enfant bien-aimé. Il m'a accepté et pardonné. Et Matt Chandler, dans le livre de Mingling of Souls, va dire, « Dans ce sens, le sexe et toute la relation de mariage peut être à propos de l'Évangile. Si Jésus a voulu de notre version brisée, est-ce qu'on peut trouver la force de vouloir la version brisée de notre époux, de notre épouse? » En Jésus, c'est possible de se battre pour un mariage heureux et satisfaisant. Chandler va poursuivre en disant, « Aime le cadeau qu'est le sexe, aime ton époux, ton épouse, mais ce n'est pas les techniques ou la romance qui fait que le sexe est bon, comme au chapitre 4 du Cantique des Cantiques, mais c'est Jésus, parce que seulement lui peut réconcilier ce qui a été brisé quand le péché est entré dans le monde. » Alors ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse garder espoir qu'avec Dieu, avec Jésus dans nos vies, tous les espoirs sont permis pour continuer à se battre pour l'intimité et de ne pas accepter le statu quo dans nos vies. Battons-nous pour l'intimité. Prions que Dieu ramène l'intimité dans notre mariage, que Dieu nous rende capables d'écouter, de pardonner et d'aimer comme il nous a aimés. Soyons encouragés.